Bien. Donc c'est la deuxième soirée que l'on consacre autour du thème de la Pâque de notre Seigneur. Hier, nous avons surtout mis l'accent sur le rôle du Père pendant les jours qui ont précédé la Pâque jusqu'à la crucifixion. Donc je ne vais pas répéter évidemment ce que j'ai dit hier. Et pour le deuxième message, j'avais pensé faire un petit pas de côté et parler de ce qui s'est passé entre le moment où Jésus rend l'esprit et le moment où il ressuscite. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la parole nous dit quelque chose dans cette période de 3 jours et 3 nuits, et qu'importe la manière dont on décompte les 3 jours et 3 nuits, mais est-ce que la parole nous donne de l'information ou quelque chose sur ce qui s'est passé dans cette période? Eh bien, très étonnamment, oui. Alors, ce n'est pas des chapitres entiers, mais il y a un certain nombre de versets, en particulier dans les épîtres de Pierre et l'épître de Jude, qui font allusion à ce qui s'est passé entre la mort et la résurrection de Jésus. Donc, c'est ça que je vais regarder. Et c'est pour ça que j'ai appelé le titre du message pour ce soir. C'était les proclamations du Fils dans le séjour des morts. Proclamation au pluriel, c'est-à-dire deux proclamations. Il a fait deux proclamations à deux publics bien distincts. Et c'est ce qu'on va regarder ce soir. À qui Jésus s'est-il adressé entre sa mort et sa résurrection? Je pensais que c'était aussi intéressant, parce que je ne pense pas que vous ayez beaucoup entendu près de messages ou d'enseignements sur cet aspect-là. Et d'autre part, parce que dans certains milieux, on entend de drôles de choses quant à ce que Jésus aurait subi entre sa mort et sa résurrection. Alors des choses que je trouve tellement horribles que je ne vais même pas les raconter. Mais j'ai vraiment entendu des drôles de choses, des drôles de conceptions quant à ce qui se serait passé concernant Jésus entre sa mort et sa résurrection. Donc si vous n'avez jamais entendu de choses bizarres là-dessus, autant que je ne vous remplisse pas le cerveau avec ça. Alors, comme arrière-plan de ce soir, je vais quand même rappeler quelque chose que l'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, des versets 19 à 31. Vous vous rappelez qu'il y avait un homme riche et que devant la porte de sa maison, il y avait un Lazare tout malade, couvert de plaies et d'ulcères, et que les deux meurent. Donc, je ne vais pas lire tout le passage, mais juste la partie centrale, à partir du verset 22. Le pauvre, c'est-à-dire Lazare, mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli. Et dans le séjour des morts, donc en hébreu ou en araméen, le séjour des morts, c'est le Sheol. Donc quand vous m'entendrez tout à l'heure parler de Sheol, c'est le séjour des morts. Il leva les yeux, donc le riche, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. J'arrête juste là. Pour dépeindre d'abord, alors, Jésus nous parle là du séjour des morts. Est-ce qu'il nous en donne une description littérale? J'ai quand même le sentiment en lisant que c'est un lieu spirituel. On a plusieurs fois dans la parole l'idée qu'il y a quelque chose sous la terre. Jésus va dominer dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Hein, dans les régions inférieures de la terre. Je vous lirai un verset à ce propos tout à l'heure. Mais ce que l'on voit en tout cas dans ce Sheol, dans ce séjour des morts, c'est qu'il y avait un lieu où était Abraham avec l'ensemble des croyants. Il y avait un autre lieu où était l'homme riche, incrédule, avec, on imagine, les autres incrédules. Et entre les deux, il y a un profond abîme qui sépare les deux régions. Donc voilà comment se représentent les choses. Le sein d'Abraham d'un côté, les incrédules de l'autre, dans un lieu de tourment, manifestement. Et entre les deux, un profond abîme. Alors maintenant qu'on a posé, si je puis dire, le décor, ce que l'on peut déduire de la parole, donc, c'est que jusqu'à ce que Jésus lui-même entre dans le Sheol, toutes les âmes de ceux qui mouraient, depuis Adam, Ève, Abel, etc., entraient dans le Sheol, mais les uns recueillis à un endroit, les autres recueillis à l'autre endroit, suivant qu'ils mourraient dans la foi ou non. Et donc Abel est le premier humain à être descendu dans ce lieu, donc avec la foi. Et les âmes attendaient là, en particulier les âmes des croyants, attendaient là quelque chose. Qu'est-ce qu'elles attendaient? Elles attendaient que le Messie vienne les chercher. Et quant à la question de l'abîme, pour ceux qui connaissent le livre de l'Apocalypse, il est également question de cet abîme dans le livre de l'Apocalypse, puisque vous saviez que lorsque Jésus est venu et a lié Satan, il l'a jeté dans un profond abîme, d'où il ne ressort qu'à la fin des temps, et je pense pour ma part qu'il est ressorti, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Simplement la notion qu'il y a effectivement cette notion d'un profond abîme dans lequel même Satan a été enfermé pendant un temps, dans ce lieu abîme qui sépare ces deux parties du Sheol. Et quand Jésus est mort, il est descendu dans le Sheol. Et c'est le premier passage, donc là ça correspond à la proclamation du Fils à ceux qui étaient dans le Sheol et l'attendaient, que l'on trouve dans la première épître de Pierre au chapitre 4, versets 5 et 6. Je vais juste lire le verset 6. L'évangile a été annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Est-ce que ça veut dire que quand on meurt, on a une deuxième chance et qu'on peut entendre l'évangile si on l'a refusé pendant notre vie sur terre? Non. C'est que Jésus a annoncé le message du salut à ceux qui l'attendaient avec foi dans le sein d'Abraham. C'est ce que l'on voit par ailleurs dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. On retrouve la même idée encore dans l'épître aux Éphésiens. Vous voyez qu'il y a plusieurs passages qui nous parlent de ce qui s'est passé à ce moment-là. Même dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, des versets 7 à 12, dont je ne vais lire à nouveau que le début. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Messie. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené avec lui des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Je traduis, étant remonté du Sheol par la résurrection, il a amené avec lui les captifs, puis il a fait des dons aux hommes, les dons de l'Esprit, à partir de la Pentecôte. Il descend, ramène les captifs et envoie l'Esprit pour les dons spirituels, pour l'édification du corps de Christ. Mais Paul rajoute, or que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Par sa mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire dans le Sheol, où l'attendaient les captifs qui n'attendaient que le Messie pour pouvoir sortir de ce lieu de repos le sein d'Abraham et réentrer dans la lumière, dans la présence de Dieu avec le Messie. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Et là, on a tous les ministères. Donc l'image qui se dégage de celle-là, c'est celle donc Jésus qui entre vivant, glorieux dans le Sheol, ramène avec lui les captifs lors de sa résurrection. Et qu'est-ce qu'il en est des autres? Qu'est-ce qu'il en est des incrédules? Eh bien, les incrédules restent dans le Sheol. Et jusqu'à ce jour, tous ceux qui meurent sans la foi en Jésus continuent de descendre dans le Sheol. Vous allez voir, après, je vais vous lire un verset qui nous fait vraiment penser ça. Et lors de sa résurrection, une nation est née en un seul jour. Le royaume est né en un seul jour, constitué de l'ensemble des âmes de tous ceux qui étaient morts avec la foi, depuis Abel jusqu'au brigand sur la croix. Donc des milliers, des millions, on ne sait pas combien. Mais à la résurrection, le royaume de Dieu, le royaume céleste, est né d'un coup et continue d'être alimenté par tous ceux qui continuent de mourir dans la foi et qui cette fois-ci rejoignent directement le Seigneur. C'est ce que l'on lit par exemple dans Ésaïe 66. Donc Ésaïe, les derniers chapitres d'Ésaïe ont de très forts parallèles avec le livre de l'Apocalypse, en particulier 21 et 22, nous parlant de la Jérusalem céleste. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant que les maux lui vinssent, elle a mis au jour un enfant mâle, c'est-à-dire le Messie. Qui a jamais entendu rien de pareil? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Que Sion, à peine en travail, ait mis au monde ses fils. Ça a eu lieu le jour de la résurrection. Une partie du Sheol s'est vidée et une nation, un royaume est né en un seul jour. La Jérusalem céleste a enfanté ses fils et ses filles. J'aime bien dire que Jésus est entré vivant dans la mort. Parce que son corps, comme on l'a dit hier, son corps et son âme, son corps est resté à la croix, puis mis dans un tombeau, mais lui-même, son esprit divin, est descendu dans le Sheol. Donc c'est vivant que Jésus est entré dans la mort. Et comme je l'ai dit, les élus sont remontés avec lui. Les autres attendent le jugement. Comment je le vois ça? Dans Apocalypse chapitre 20, quand il est question du jugement dernier, il est dit à un moment donné, verset 13, « La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour, la mer, pardon, rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. » Donc, au jugement dernier, tous ceux qui étaient dans le séjour des morts et y sont restés quand Jésus est venu annoncer la proclamation de la victoire sur la mort aux élus, tous les autres qui étaient dans le séjour des morts n'en ressortiront que pour le jugement dernier, à la résurrection. Donc voilà le tableau qui est la première proclamation, la proclamation de Jésus en victoire à l'égard de son peuple qui a attendu. Alors on pourrait se dire, oh là là, mais il y en a qui ont attendu plusieurs milliers d'années depuis la création. Sauf que la notion du temps n'est pas du tout la nôtre. Donc là, je fais une petite digression avant d'aller vers la deuxième proclamation. Là encore, c'est le livre de l'Apocalypse qui nous montre que l'enchaînement des scènes célestes de l'Apocalypse correspondent au jour du grand pardon, la sixième des sept fêtes de l'Éternel, la fête du grand pardon. C'est le jour, une fois par an, où le souverain sacrificateur entre dans le temple, pour y verser, dans le lieu très saint, pour y offrir le sang sur l'arche. Eh bien, quand on enchaîne les scènes célestes du livre de l'Apocalypse, on voit la journée du Yom Kippour. Mais sur la terre, il est question d'un royaume de 1000 ans. 1000 ans pour un jour pour 1000 ans. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que depuis la résurrection de Jésus, celui qui est ressuscité avec Jésus, par exemple le brigand sur la croix, dont l'âme est montée avec Jésus à la résurrection, en fait, il a attendu un jour jusqu'au jour de la résurrection. Pour nous, ça paraît 2000 ans. Pour lui, c'est une journée. Et donc, l'écoulement du temps dans les lieux spirituels, autant le Sheol que le royaume céleste auprès du Père, ce n'est pas du tout la même notion de temps que pour nous. Vous voyez ? Donc, Abel, à notre mesure, a attendu peut-être 4000 ans. Mais peut-être que pour lui, ça a paru une journée ou deux journées. Le temps n'est pas du tout le même. Voilà, ça c'est une petite parenthèse pour dire donc que voilà, ils n'ont pas attendu pendant 4000 ans, 5000 ans, ou ceux qui sont auprès du Seigneur depuis 2000 ans à notre mesure n'ont pas attendu 2000 ans que la résurrection générale ait lieu. Ça c'est une petite parenthèse donc. Et donc, la première proclamation, évidemment, de Jésus est à l'égard de ses élus, à l'égard de ceux qui l'attendaient, à l'égard de ceux qui ont la foi. Et comme je l'ai dit, depuis la résurrection de Jésus, quand un chrétien meurt, il se retrouve, comme le dit Paul, immédiatement auprès du Seigneur. Mais très étonnamment, et c'est là que ça va être un peu plus surprenant, ce que je vais vous dire maintenant, très étonnamment, Jésus a fait une deuxième proclamation. Alors, est-ce que... Donc, toi, t'as pas le droit de... Est-ce que vous avez une idée à qui est-ce que Jésus s'est adressé? Il a fait une deuxième proclamation très particulière. Et qui a d'énormes conséquences jusqu'à aujourd'hui. Il a fait une proclamation à l'égard de quelque chose qui a eu une énorme conséquence jusqu'à aujourd'hui. Alors, plutôt que de vous laisser deviner... Comment? Non. Dans le séjour des morts. Ah. Alors, je vais vous lire le passage. Alors, c'est un passage qui est considéré comme parmi les plus difficiles du Nouveau Testament. Alors, vous voyez d'emblée. Et pourquoi justement? Parce que les commentateurs n'arrivent pas à savoir à quoi c'est relié. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de le relier à d'autres passages. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se dégage. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, versets 18 à 20, et je vais lire donc 18 et 19. Le Messie donc a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit, par l'Esprit de Dieu. Esprit dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison qui avaient été autrefois incrédules au temps de Noé. Et là, le débat parmi les commentateurs, mais à qui Jésus s'est-il adressé? C'est pas aux élus, on vient de le voir, il y a d'autres passages qui parlent très bien de ce qui s'est passé pour les croyants. De quel esprit parle-t-on ici? Et des esprits en prison. Et pour comprendre ça, on va continuer avec l'épître de Pierre, mais cette fois-ci la deuxième. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Et donc je vous lis le verset 4. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes, dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Et de la même manière dans Jude, versets 5 et 6, le Seigneur a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur demeure, sous-entendue, dans les cieux. Puisqu'on sait que les anges rebelles sont les puissances de l'air, et Satan agit dans les puissances de l'air. Mais là, il y a une catégorie d'anges qui a été enfermée dans l'abîme dont je vous ai parlé au départ, qui séparait les deux parties du Sheol. Ils ont été enfermés là, liés par des chaînes éternelles pour le jour du jugement. Quels étaient ces anges? Pourquoi y a-t-il une catégorie d'anges qui se retrouvaient enfermés là? Puisque les anges de Satan, les sbires de Satan, sont avec lui, prince de puissance de l'air. Ce sont les puissances, autorités et domination dont il est question dans Éphésiens 6, contre lesquelles on combat par la prière. Alors que font ces anges-là dans l'abîme? Or Jude, quand il nous parle de ça, il fait référence à Enoch, le septième depuis Adam. Ce qui renvoie donc au livre d'Enoch, et le livre d'Enoch, qui n'est pas canonique, je le précise, mais dans la première moitié, je l'ai lu entièrement, la première moitié est absolument fascinante. Parce que la première moitié du livre d'Enoch nous raconte la période de ce qui s'est passé autour du déluge. Parce que lorsqu'il est question de ces anges-là, il en est question à chaque fois dans le contexte du déluge. À nouveau, dans la première épître de Pierre, au chapitre 3 que j'ai lu tout à l'heure, des esprits en prison qui avaient été incrédules au temps, au jour de Noé, le déluge. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, je vous ai lu. Enfermés dans les abîmes de ténèbres réservés pour le jugement, car il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé. Quand il parle de ses anges ou de ses esprits en prison, il renvoie constamment à la période de Noé et du déluge. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là pour que Jésus ait une proclamation particulière liée au temps du déluge?
Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, ceux qui ont été voilà. Comme Sodome et Gomorre, qui ont fait des choses contre nature. Et...
Oui.
C'est ça?
Voilà, mais continue. Qu'est-ce qu'ils ont fait également dans Genèse 6? Avant d'aller contre les choses contre nature, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est ça, ça tourne autour de ça.
Ils se sont rebellés.
Oui, mais ils ont fait quelque chose de particulier.
Ils sont descendus sur terre.
Avec les femmes de terre.
Voilà.
Oui. Ils ont mélangé leur ADN.
Voilà, on arrive à ça.
C'est ça. Ouais. Voilà.
Donc effectivement, ça renvoie à Genèse au chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et la question qui se pose immédiatement, qui sont ces fils de Dieu? Il y a deux manières de comprendre. La première, on retrouve un tel interdit d'intermariage à l'égard d'Israël. Donc on peut dire les fils de Dieu, c'est la lignée fidèle. Et les filles des hommes, ce sont les filles descendantes de Caïn. Auquel cas Dieu aurait dit, il ne faut pas mélanger le peuple de Dieu ou la lignée fidèle avec la lignée idolâtre, celle de Caïn. Exactement comme Dieu va le demander à Israël, de ne pas prendre de femmes étrangères, de ne pas donner leur fils à des femmes étrangères et de ne pas donner leur fille à des hommes étrangers. Donc on pourrait dire, voilà, il s'agit de ça. Mais la lecture qui est proposée par le livre d'Enoch est tout autre, puisque les fils de Dieu dont il serait question ici, en fait, ce sont justement les anges qui ont, comme tu l'as dit, abandonné leur demeure, qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont pris en clair un corps sexué pour aller vers les femmes. Et d'autant plus qu'il est dit, en ce temps-là, le temps qui a précédé le déluge, les géants, alors retenez bien ce mot, des géants, en hébreu c'est Néphilim, mais donc les géants, étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent puissants, deuxième mot à retenir, géants, puissants, qui furent puissants dans l'Antiquité. Et là, on pense immédiatement aux mythologies, la mythologie grecque, les titans, la génération des dieux, et les demi-dieux, les dieux qui vont vers les femmes, ou les hommes, et qui engendre des demi-dieux, Héraclite, donc Hercule, et tant d'autres. Et on peut se demander, mais d'où venait cette mythologie antique ? Eh bien, je pense que ce passage-là nous donne quelle est l'origine de ces personnages extraordinaires qui peuplent en fait les mythologies du monde. Grecque, latine, mésopotamienne, etc., etc. Les géants et les puissants, les héros. Donc, ce que l'on va faire maintenant, d'abord, pour conforter un peu la question des fils de Dieu, on se dit, tiens, les fils de Dieu, ce sont des anges qui ont abandonné leur demeure. En fait, oui, c'est comme ça que les anges sont appelés, tout particulièrement dans le livre de Job. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi parmi eux. Job 1, verset 6. Job 2, verset 1. Les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Les anges sont appelés les fils de Dieu. Et on a, alors si je me souviens bien, là de mémoire, c'est le psaume 104, le psaume de la création, les fils de Dieu qui assistaient à la création de l'univers auprès de l'Éternel. Les fils de Dieu. Job 38, verset 7. Pareil. Donc on pourrait dire, oui, ces fils de Dieu-là, ça pouvait tout à fait être des anges. Donc à partir de là, on fait une chose extrêmement simple. On regarde les mots puissants et les mots... C'est quoi l'autre ?
Géant.
Et on va regarder où est-ce qu'il apparaît dans l'Ancien Testament. Où est-ce que ces mots-là apparaissent ? Eh bien là, la suite de l'histoire est extrêmement étonnante. Dans Nombre 13, vous savez que quand les 12 espions sont allés explorer le pays de Canaan, il est dit « Oh là là, on y a vu des géants !» Et nous étions à côté comme des sauterelles. Exactement le même mot qui est employé donc à propos de ces géants qui résulteraient, qui auraient résulté de ce croisement entre ces anges prenant un corps sexué et les femmes. Autrement dit, ces géants seraient des espèces d'hybrides. Ce ne sont pas vraiment des humains, puisque les anges ne sont pas humains, mais ne sont pas également des anges, puisqu'ils sont nés de femmes. Ils sont nés avec un corps. Vous voyez ? Des hybrides. Et on va voir après ce que sont ces hybrides. Mais dans le, voilà, lorsque les espions dans Nombre 13 vont dans Canaan, ils trouvent ces géants. Dans le pays de Canaan. Et on se dit, mais attends, si cette engeance est née avant le déluge, et même c'est la raison pour laquelle Dieu a provoqué le déluge, afin que, évidemment, cette peuplade hybride ne commence pas à répandre, entre guillemets, ses gènes et n'empêche l'avènement du Messie par la contamination totale de l'humanité. Donc Dieu, il a fallu qu'il mette un terme à ça, qu'il mette de côté la famille de Noé, et détruisent tout le reste. Vous voyez ? Parce que quelque chose se répandait, qui n'était plus vraiment humain, qui n'était plus angélique, mais une espèce d'hybride, qui menaçait en fait de détruire l'humanité et empêcher l'avènement du Messie. Dieu y a mis un stop avec de très grand jugement, hein, le jugement du déluge. Voilà. Mais alors, quel est le lien avec Canaan ? Pourquoi est-ce que ces géants étaient dans Canaan ? C'est très intéressant qu'après le déluge, lorsque Noé s'enivre, Cam, l'un des trois fils de Noé, va voir la nudité de son père, va gousser, va aller chercher les deux autres, Sem et Japhet, qui eux vont marcher en marche arrière pour couvrir la nudité du père. Et là, il est très étonnant, on aurait pu s'attendre à ce que Noé, ayant repris ses esprits, maudisse Cam, en disant « Cam, fils indigne ». Et il dit non, maudit soit Canaan. Il ne dit jamais maudit Cam, maudit soit Canaan. Comment est-ce que Noé, pourquoi est-ce qu'il maudit Canaan ? Eh bien, parmi les fils de Cam, on va trouver, donc dans Genèse 10, dans la généalogie, vous avez tous entendu parler de Nimrod, le premier puissant de la terre. Tiens, on retrouve le même terme, le puissant. Ça a été le premier puissant de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le gène, entre guillemets, est passé au travers du déluge. Quelque chose est passé au travers du déluge. Et l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'elle est passée non pas par Cam, mais par sa femme. En fait, quelque chose est passé et va se développer dans la descendance de Cam. Et on va retrouver l'expression de ces gènes un peu bizarres, qui étaient donc ces hybridations qui ont eu lieu avant le déluge. Quelque chose va passer au travers du déluge via Cam. Donc on ne pense pas que ce soit Cam, puisque Cam, avec donc Noé, avec sa femme, lui, il avait les gènes uniquement de Noé et de sa femme. Donc sans doute que c'était via la femme de Cam qu'il y avait des restes de ces gènes hybrides. Et ça va passer au travers de Cam. Et quelque chose va se développer et va apparaître de temps en temps dans la lignée de Cam, c'est-à-dire via Canaan. Et le premier qui est mentionné, c'est Nimrod, qui fut un puissant sur la terre. On continue à dérouler le fil. Donc, je vois que le temps passe, donc je ne vais pas faire trop long. Mais on se rend compte que ces géants, ces puissants, on va les retrouver qualifiés ainsi, par exemple, le géant qui a dû tuer Goliath. Goliath est qualifié de puissant. Et non seulement Goliath, mais il avait 4 frères. Et vous lirez dans 2 Samuel 21, versets 15 à 22, le récit de la mise à mort de chacun des 4 frères de Goliath, qui étaient tous qualifiés comme enfants de Rapha, mentionné dans Genèse pour la première fois. Et les Réphaïm faisaient partie de ces peuples de géants. Et qui plus est, 2,50 m de haut, 6 doigts de pied, 6 doigts de main, brutalité énorme, vraiment quelque chose de surhumain. Vous voyez? Donc j'ai dit Nimrod, Goliath, hop, on avance. Donc j'ai relevé tout un tas de passages qui nous parlent de ça, dans 1 Chronique 20, etc., etc. Mais ça permet également de comprendre quelque chose qui est assez mystérieux dans l'Ancien Testament. Vous savez que lorsque Dieu a demandé à Israël de conquérir Canaan, Dieu lui a demandé un génocide. Vous tuez tous les hommes, les femmes et les enfants, vous n'en laissez aucun. Et on se dit, oh là là, Dieu est un Dieu sanguinaire, Dieu est un Dieu terrible. Et si Dieu visait en fait à stopper la propagation de ce gène-là, pour ne pas contaminer le reste de l'humanité et permettre à nouveau au Messie de venir? Donc voyez maintenant l'histoire, les anges qui prennent un corps sexué engendrent une postérité avec des femmes, qui donnent les puissants et géants qui ont tellement marqué l'histoire de l'humanité qu'on en entend encore parler aujourd'hui dans tous les récits de mythologie, avec les titans, les dieux, les demi-dieux, etc., etc. Dieu envoie un déluge pour stopper ça et sauver la famille de Noé, pour redémarrer une humanité, mais le gène réussit à passer et se propage dans la lignée de Cam sous la forme de ces puissants, ces géants qui faisaient, comme je l'ai dit, 2,50 m, ces Goliath. Voilà, c'est Goliath. Donc le gène était là. Il y avait également le roi. Alors, pardon. Le roi. Quel était le roi? Voilà, l'homme de grande taille. Les quatre frères de Goliath, dont les enfants de Rapha, dans la ville de Gath. Et il y avait également le. Excusez-moi. Voilà, le roi de Bazan. Dans le royaume d'Og, en Bazan, qui était un roi, il est dit dans Deutéronome 3, verset 11, « Og, le roi de Bazan, était resté seul de la race des Réphaïm. » Ça faisait partie des derniers fils de Rapha, qui est, également Goliath et les quatre frères étaient fils de Rapha, les Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer, sa longueur de 9 coudées, 4,50 m, et sa largeur de 4 coudées, 2 mètres, en coudées d'homme. Et donc, l'hypothèse est la suivante. Est-ce que Dieu n'aurait pas mandaté, entre autres, Israël, l'antique Israël, pour détruire les dernières traces de la descendance, de cette descendance hybride? Vous voyez? Et là, j'avais une pensée qui m'est passée par la tête et qui m'est sortie. Ça va revenir. Voilà, Dieu, est-ce que Dieu n'aurait pas demandé à Israël de détruire cette engeance? Vous voyez? Ah oui, ça y est, la pensée, ben, elle vient du passage suivant. N'oubliez pas que lorsque Israël a été déporté en Égypte, Dieu avait annoncé longtemps avant à Abraham que sa postérité resterait donc 430 ans en Égypte, jusqu'à ce que l'iniquité de Canaan et des habitants soit parvenue à son comble. C'est dans Genèse 15. Donc, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, en l'occurrence l'Égypte. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. » Paul, dans Actes, dira 430. Après, ces histoires de chronologie, je ne vais pas rentrer dans ce détail. « Alors je jugerai la nation, c'est-à-dire l'Égypte, à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront avec de grandes richesses. » Et tu iras toi-même en paix vers tes pères, tu seras enterré avec une heureuse vieillesse. Et à la quatrième génération, Israël reviendra, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore parvenue à son comble. Or, je vous rappelle que ce qui va provoquer le déluge, c'est que tous les jours, le cœur de l'homme était porté vers le mal. Et on a l'impression, par conséquent, que cette hybridation entre les anges et les hommes, les humains, va engendrer une race que l'on qualifierait en termes modernes de psychopathe, de violent, qui va provoquer une telle violence à la surface de la terre que Dieu devra envoyer son déluge. Violence que l'on va retrouver ensuite dans Canaan, et Dieu va mandater Israël pour détruire les restes de cette lignée. Et donc, pour stopper cela, Dieu a enfermé ses anges dans les profondeurs de l'abîme. Et lorsque Jésus descend dans le Shéol, il a une adresse à l'égard de ces anges-là. Pourquoi? Parce que la conséquence de cette hybridation, donc là maintenant c'est une hypothèse, alors je ne l'affirme pas, c'est une hypothèse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis je vais conclure avec ça, puis après on peut discuter un petit peu éventuellement. Ces hybrides ne sont pas des humains. Donc ils ne se descendent pas dans le Shéol quand ils sont morts. Ces hybrides ne sont pas des anges. Ils ne remontent pas dans le ciel puisque Dieu... Alors Dieu a enfermé les anges eux-mêmes dans l'abîme, mais les descendants ne sont pas des anges. Ils sont nés de femmes. Alors si ce ne sont ni des humains, ni des anges, qu'est-ce qui se passe quand ils meurent? Eh bien, l'hypothèse que je vous propose, c'est qu'on a là l'origine de ce que l'on appelle les démons. Les démons qui ne sont pas les anges, qui eux, les anges, y compris déchus, mais qui sont les puissances dans les cieux avec Satan, ou les anges qui ont été enfermés dans l'abîme, mais ce sont des créatures qui ne sont pas des hommes, qui ne sont pas des anges, qui ne descendent pas dans le Shéol, qui ne sont pas humains, ils ne remontent pas dans le ciel, ce ne sont pas des anges, mais quand ils meurent, ils errent à la surface de la terre avec le seul désir de retrouver un nouveau corps à posséder. Vous voyez? Et donc là, on aurait en fait, dans toute cette histoire-là, l'origine, en fait, du monde démoniaque, qui n'est pas le monde angélique. Ce n'est pas les, même les anges déchus, les anges de Satan, ne cherchent pas particulièrement de corps. Ce sont des puissances dans les cieux qui gouvernent des lieux, comme on le peut voir dans le livre de Daniel. Mais là, on a des êtres particulièrement retors et tordus qui cherchent à occuper des corps pour essayer de revivre ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils étaient encore dans la chair. Et donc, c'est pour ça que Jésus va avoir à leur égard non pas une proclamation de salut, mais une proclamation de jugement à l'égard de ces anges qui ont engendré un tel problème quelque part et qui sont à l'origine donc, du monde démoniaque. Donc ça, c'est l'hypothèse que je vous fais. Et donc, la proclamation de Jésus est une proclamation de victoire sur le monde angélique, qui plus est la pire composante du monde angélique, celle qui a failli perdre l'humanité par sa perversion. Et donc, voilà, je conclue avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça les deux proclamations du Fils dans le séjour des morts. Une proclamation à salut et une proclamation en jugement. À salut pour tous ceux qui l'attendaient et sont revenus avec lui, captifs, sortant de prison et ayant constitué le royaume de Dieu en un jour, mais également une proclamation de jugement à l'égard de ces anges qui ont failli perdre l'humanité. Et il a fallu que Dieu intervienne de manière radicale, d'abord avec un déluge, puis en mandatant Israël pour stopper la propagation de ça. Et la dernière question, et j'arrête avec ça, est-ce qu'Israël a vraiment supprimé tous ces gènes-là? Je pose la question, et qui peut avoir de très très grandes incidences en relation avec ce qui se passe aujourd'hui, mais là je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais la question qu'on peut se poser, puisqu'on sait par ailleurs, et il est dit dans la parole, qu'Israël ne les a pas éliminés, mais les a tolérés parmi eux. Donc, est-ce que ça a une importance pour le temps d'aujourd'hui? Première question. Deuxième question, et là, on est plus concret dans le temps d'aujourd'hui encore, réfléchissons à tous ces projets transhumanistes qui visent à augmenter l'homme. Alors, si on l'augmente de manière bionique, mécanique, c'est une chose. Mais si on commence à vouloir augmenter ses capacités par des moyens génétiques, est-ce que là, on n'est pas en train de refaire ce que ces anges-là ont essayé de faire à l'époque? Et est-ce que ça ne serait pas une stratégie de Satan pour réessayer de modifier l'humanité de l'intérieur via la génétique, donc le transhumanisme génétique? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir là un écho de ce qui s'est passé au déluge? Et on peut même aller encore plus loin. Est-ce que ce n'est pas ce qui va précipiter le retour de Jésus? Puisque le retour de Jésus est comparé au temps de Noé, dans Matthieu 24, etc., dans les passages, il en sera comme au temps de Noé. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire un lien là entre ces projets transhumanistes utilisant les manipulations génétiques pour améliorer l'homme? Est-ce que ce n'est pas la ligne rouge que les hommes rebelles sont en train de franchir et qui vont provoquer le retour précipité du Seigneur? Voilà, je pose tout ça uniquement sous forme de question, mais pour essayer de faire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui aussi. Et donc voilà, les deux proclamations à salut et à jugement pour deux événements fondamentaux qui sont la constitution du royaume de Dieu et le deuxième, la constitution d'un royaume satanique auquel Dieu doit mettre terme de manière extrêmement brutale et définitive.